question de train. Il faut qu'à midi, je sois dans la voiture. Pour pas rater mon train sur Lyon. C'est très court demain à Lyon. Voilà. Voilà. Le plus simple, comme on est pris en photo, je vais m'asseoir, mais je suis malheureux quand je suis assis. Non, ce sera plus facile. Voilà, je vais rester assis, comme ça c'est plus simple. Voilà. On va terminer donc par un texte qui est important, puisque vous allez voir effectivement que se dessinent dans ce texte des lignes de force du livre des Chroniques, et notamment la manière dont il réécrit les récits. Donc je vous ai proposé une lecture, vous devez avoir une synopse qui est distribuée, ou qui a été distribuée, sur... Voilà. Donc vous avez le texte en synopse. Alors je vous rappelle que tous les textes que je... mes lectures, donc vous les aurez sur le site. Hein, voilà. Je les ai donc donnés, donc vous les aurez quand ce sera mis. Donc soyez libres. Il faut prendre des notes parce que c'est les notes qui fait qu'on retient. Hein. Mais mon texte est entièrement écrit, donc vous aurez le texte écrit au cordeau avec même les notes de bas de page. Voilà. Ah oui, non, je ne vais pas renier ce que j'ai écrit. Mais... Oui, le livre des Chroniques, oui, il va très bien. Oui, bien sûr. Mais j'ai un peu évolué depuis, parce que je l'ai écrit il y a 10 ans, même plus. Mais quand même, je n'ai pas complètement changé le noyau reste. Mais heureusement qu'on évolue. Il y a des fois, je me dis, mon Dieu, j'ai écrit cette bêtise. Et puis bon, je me dis, c'est une époque. Voilà. Donc, c'est le songe de Gabaon. Ce texte est intéressant parce qu'il est en parallèle avec le récit, bien sûr, du livre des rois. Mais vous allez voir que quand on regarde de près ce texte, on s'aperçoit que la manière d'introduire le thème de la sagesse est totalement différente dans le livre des rois et dans sa reprise dans le livre des Chroniques. Et je précise qu'un de mes étudiants est en train de travailler avec moi sur la figure de Salomon dans les livres des Chroniques. Et effectivement, donc, ce travail, je l'ai fait il y a déjà quelques années, mais je le retravaille actuellement avec un étudiant. Donc, vous aurez aussi sans doute des échos de ce que je fais actuellement avec ce prêtre libanais. Il s'appelle Sani. Suivante. On va contextualiser les récits. Vous savez que dans le livre des rois, vous le savez, le texte du songe de Gabaon est précédé par une série d'épisodes un peu dramatiques. On ne peut pas dire que Salomon devient roi dans la douceur. Il va d'abord éliminer son frère Adonias, son oncle Joab, il va écarter le prêtre Ébiatar, et ensuite, on dit pudiquement, il s'affermit dans sa royauté. Oui, comme il a tué tout le monde, il peut le faire. Donc, effectivement, il y a une difficulté réelle dans le livre des rois, c'est comment passer de la figure du sage Salomon, celle qui remplit nos icônes, à celle d'un Salomon un tout petit peu, violent. C'est pas celui des catéchèses, hein. Mais Salomon qui élimine le monde autour de lui, c'est quand même dans le livre des rois. Et on voit bien que le songe de Gabaon permet de faire une transition entre l'image violente du roi, Salomon, qui élimine tout adversaire politique, et puis l'image du sage Salomon, qui notamment va choisir entre la bonne mère et la mauvaise mère. Mais on n'est pas préparé quand même par le début du récit du livre des rois. Or, ce contexte est totalement différent dans le livre des Chroniques, regardez, puisque, à l'inverse, dans les Chroniques, il n'y a aucune contestation à l'avènement de Salomon au pouvoir. Puisqu'on lit à la fin du premier livre, on proclama roi Salomon, fils de David, on l'oignit pour le Seigneur comme chef, ainsi que Sadoc comme prêtre, Salomon s'assit sur le trône du Seigneur comme roi à la place de David son père. Il réussit et tout Israël l'écouta. Et j'ai souligné tous les chefs et tous les braves et même tous les fils du roi David se soumirent à Salomon. Avouez quand même que quand on a lu le livre des rois, la pilule est difficile à avaler. Vous voyez donc combien le chroniste, avec intelligence, il a gommé toute ombre du roi Salomon. Pourquoi ? Parce que le bâtisseur du temple ne saurait être entaché d'un péché aussi grave que d'avoir commis l'homicide contre Adonias, son frère. Et donc, quelque part, vous le voyez bien, on va grandir Salomon et on va créer une séquence de succession entre la mort de David et l'avènement de Salomon qui passe totalement en silence toutes les péripéties qui ont conduit Salomon au trône et qui sans doute, elles, relèvent d'une certaine historicité. On n'invente pas cela. Autant on va grandir Salomon dans la géographie, mais on ne va pas inventer que le roi sage s'est imposé par la force. Ça relève sans doute d'une certaine historicité, me semble-t-il. Suivante. La suivante, s'il vous plaît, oui. Ah oui, c'est bon. Voilà, c'est celle-là. L'autre parti pris du chroniste, c'est, je vous l'avais dit déjà hier, c'est de transposer un trait du songe en lequel Salomon dit qu'il est petit enfant, Nahar Katon, un petit adolescent. Le Nahar, c'est l'adolescent, c'est l'enfant, c'est le garçon. Et en fait, on le voit dans le récit de Gabaon, dans le livre des rois, ça a trait au fait qu'il est dans l'incapacité de pouvoir gouverner un tel peuple. Or, je vous l'ai dit, le chroniste l'a anticipé déjà, puisque regardez, dans le livre des chroniques, le trait est transposé dans un tout autre contexte, non pas celui de la sagesse, mais celui de la construction du temple. C'est comme constructeur du temple que Salomon prend conscience de sa petitesse. Ce qui fait que la grande intelligence du chroniste, c'est de transposer le thème de la sagesse, non pas lié au thème du gouvernement, mais au thème de la construction du temple. C'est comme bâtisseur du temple que Salomon est un roi sage, et non comme gouvernant d'un peuple nombreux. Ce qui correspond totalement à la situation, on pourrait dire, de l'époque perse, voire, comme je l'ai dit, du début de l'époque grecque, où le peuple n'est plus cette grande masse imaginée du royaume de David, qui est imaginaire en grande partie, je vous renvoie à ce que j'ai écrit dans mon livre sur l'histoire d'Israël, mais en même temps, vous voyez bien que la grandeur, c'est l'œuvre à rebâtir, et derrière le temple, c'est aussi la communauté, le kahal liturgique à construire. Suivante. Maintenant qu'on a vu que le contexte est totalement différent et va infléchir la lecture du chroniste, relisons d'abord en synopse les deux récits, en commençant par l'introduction au songe. Rassurez-vous, je ne vais pas lire le texte, vous l'avez sous les yeux. Par mode de transition, vous le voyez bien, 1 Roi, chapitre 1, verset 3, va anticiper sur quelques événements clés du règne. Ainsi, on va rappeler au tout début que Salomon a épousé la fille du roi d'Égypte, du pharaon. Et de même, on va montrer que la construction du palais et du temple, regardez, c'est le verset 2, n'est pas encore là. Ce qui va expliquer qu'on va sacrifier dans un haut lieu. Le problème du livre des rois, c'est de montrer que Salomon n'est pas coupable de sacrifier dans un haut lieu. Tu as bien dit, Jacques, que effectivement le péché d'Israël, c'est de sacrifier dans les hauts lieux, et même des rois de Juda dans les hauts lieux, les Bamoth. Là, on va expliquer que s'il le fait, c'est parce que le temple n'est pas encore là. Donc on voit très très bien que la volonté d'introduction dans le livre des rois, elle est double. Elle est à la fois de passer d'une image violente à une image de sagesse, et en même temps de ne pas entacher l'image du roi du péché d'Israël. Donc, quelque part, on veut préserver la sagesse du roi tout en préparant le lecteur au fait que les femmes étrangères ont entraîné Salomon à la fin vers le péché. Il a épousé la fille de Pharaon. Or, on vous dit pieusement en 1 Roi, chapitre 11, que Salomon aima beaucoup les femmes. Il eut 700 femmes et 300 concubines. Entre parenthèses, la liturgie catholique romaine est très pieuse, mais aussi très pudibonde, car on saute le verset 1. On vous dit simplement qu'il a eu 700 femmes et 300 concubines, ce qui n'est pas grave, mais qu'il a aimé beaucoup les femmes, c'est grave. Le verset est caviardé dans la liturgie. Allez voir. Moi, j'adore ce caviardage des versets dans la liturgie. Moi, je rétablis toujours les versets caviardés. C'est le plus intéressant. Mais allez voir. On a retiré le verset 1. Parce qu'il peut avoir beaucoup de femmes, mais surtout pas les aimer. Mais quand même, il ne faut pas donner au curé des mauvaises idées. Regardez, dans le livre des rois, c'est cela. Ce n'est pas du tout cela dans le livre des chroniques. Puisque les chroniques, là je vous lis quand même le passage. Salomon parla à tout Israël, aux chefs de 1000 et de 100, aux chefs et à tous les princes de tout Israël, chefs de maison paternelle. Puis ils allèrent, Salomon et toute l'assemblée, en hébreu Kahal, Kahal qui est l'assemblée liturgique. Avec lui au haut lieu qui est à Gabaon, là était l'arche, là était l'autel de Dieu qu'avait fait Moïse, le serviteur de Dieu, dans le désert. Donc vous voyez bien que vous avez ici une liturgie suivante. Regardez, le chroniste a dépeint l'arrivée de Salomon à Gabaon sur le modèle du transfert de l'arche de David à Jérusalem. Les parallèles sont très probants. Prenez le récit du transfert de l'arche dans le premier livre des chroniques et l'histoire de Salomon. Il y a la convocation de tout le peuple par David puis par Salomon. Il y a l'expression « Kol Israël » qui revient de part et d'autre, l'expression « toute l'assemblée », un « kol kahal » qui revient, le rappel du transfert de l'arche par David dans le récit de Salomon, la mention de l'autel de Gabaon dans les deux récits, et le même verbe « d'arrache »,« chercher ». D'une certaine manière, et de manière évidente, le narrateur renvoie alors le lecteur au fait que la démarche de Salomon n'est pas celle du roi cherchant la sagesse, mais du roi poursuivant la liturgie de David. Et quelque part, c'est un pèlerinage dans le lieu où se trouve l'autel de Moïse. L'arche d'alliance étant à Jérusalem, mais l'autel de Moïse étant conservé à Gabaon. Ce qui veut dire à un auteur, André Caco, que pour le chroniste, Salomon va relier le legs davidique, l'arche d'alliance à Jérusalem, et la tradition mosaïque, l'autel de Betsaalel qui est à Gabaon. Ce qui fait qu'autour de Salomon, toutes les traditions liturgiques d'Israël se nouent. Celle de David et celle liée au désert. On retrouve le sanctuaire du désert dont tu nous parlais hier, Marie-Odile. Donc ça me semble tout à fait intéressant, bien sûr. Un tel rappel n'est pas fortuit, il tend à légitimer... Est-ce qu'on peut aller en arrière, s'il vous plaît? Voilà. Il tend, regardez, à légitimer le fait que ce pèlerinage aux origines lie le yavisme authentique de David et de Moïse. D'ailleurs, regardez, on vous parle ici de l'arche de Dieu qui est à Jérusalem, de l'autel de bronze qui est, regardez, à Gabaon, mais c'est le temps du désert. Suivante. Dès lors, on le voit bien, l'achèvement du récit du songe de Gabaon est à lire plus loin. Il est à lire avec l'érection du temple qui commence en 2 Chroniques chapitre 5, notamment le transfert de l'arche dans le temple et donc le plein accomplissement du legs cultuel. Deux indices permettent de voir un tel déplacement. D'abord, regardez la finale du récit qu'on lit. Salomon ordonna de bâtir une maison pour le nom d'Adonai et une maison pour sur sa royauté trouve sa conclusion en 5, verset 1. Ainsi fut achevé tout le travail que fit Salomon pour la maison d'Adonaï. Ensuite, deuxième indice, l'introduction du récit du transfert de l'arche en 5, verset 2, forme un écho avec ce qu'on lisait en 1 Chronique 1, verset 2, qui est l'arrivée à Gabaon, où on voit le rassemblement de tous, ce qui fait que, vous le voyez bien, le mouvement de Salomon vers l'autel qui est à Bethel trouve son achèvement lorsque on construit le temple de Jérusalem. Et donc autour de Salomon sont liées toutes les traditions du Pentateuque et de Sion. Ça qui est important, c'est que la figure de Salomon à la fois allie les traditions mosaïques et les traditions liées à Sion, c'est-à-dire davidiques. C'est une figure vraiment centrale pour le chroniste. Et vous le voyez bien, on n'a plus du tout ici l'image du roi sage, mais du roi autour duquel se nouent toutes les traditions cultuelles du Second Temple. À la fois le legs mosaïque et l'œuvre de David son père. Ça c'est remarquable. Il y a un transfert de sagesse, on le voit, du gouvernement vers l'exercice cultuel. Il ne s'agit donc pas d'une simple reprise du texte des rois, mais bien d'une configuration nouvelle centrée sur la figure du constructeur du temple choisi par Dieu. Suivante. D'ailleurs, regardez avec une très grande intelligence, le chroniste bâtit son image comme une sorte de midrash de la figure de Bezalel. Bezalel, je vous le rappelle, dans le livre de l'Exode, est celui qui, c'est l'artisan, qui va construire le sanctuaire du désert. Or, regardez, on vous dit que Salomon est allé voir l'autel de bronze qu'avait fait Bezalel dans le désert. Or, regardez les parallèles qui sont extraordinaires. Quand on lit le livre de l'Exode, on dit que Bezalel est issu de Juda, ce qui est vrai de Salomon. On vous dit en Exode 31, versets 1 à 2, qu'il a été appelé par son nom pour construire la demeure, de même que nous lisons chez le chroniste qu'il a été choisi par son nom, rappelez-vous, Shlomo sera son nom, pour construire le temple. Et pour ce faire, Bezalel est doté de sagesse, Exode 31, de même que Salomon reçoit la sagesse, c'est ce que l'on voit bien sûr dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 1, verset 10 à 12. Il manque ici le chapitre. C'est 1 Chronique, chapitre 1er, verset 10 à 12. Dès lors, vous le voyez bien, la figure de l'artisan du désert éclaire la figure du roi Salomon. Et d'une certaine manière, c'est toutes les traditions de l'Exode qui aboutissent avec Salomon. Et Salomon conjoint les traditions du désert à celles de Sion. Et là, c'est extraordinaire, absolument absent du livre des rois. Maintenant, on va voir le songe dans l'un et l'autre récit. Le songe, suivante. Là, il y a un petit trait très intéressant de la mentalité de l'auteur. Comme il n'y a qu'un seul verset, je vous le lis. On lit en roi. À Gabaon, Adonaï se fit voir. C'est le niphal du verbe ra'a, donc je traduis par une sorte, par un passif. C'est un passif divin, tout simplement. Adonaï se fit voir à Salomon dans un songe chalom la nuit. Et Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Regardez le texte du livre des rois, des chroniques. En cette même nuit, Dieu se fit voir à Salomon. Il lui dit, demande ce que je dois te donner. Vous voyez que par une sorte de scrupule théologique, il y a deux choses qui sont. Il y a une chose qui est omise, c'est le songe. Effectivement, le chroniste est un homme qui évolue dans une mentalité où tout ce qui est divination, tout ce qui est devineresse, tout ce qui est songe devient idolatrique. Et d'une certaine manière, comme il veut orthodoxiser au maximum la figure de Salomon, eh bien, il fait voir une apparition directe de Dieu à Salomon, mais sans l'intermédiaire d'un songe. D'une certaine manière, on est dans un rapport direct de demande et de réponse, sans la médiation d'un songe qui pourrait faire croire que Salomon se prête à des pratiques, on pourrait dire, ésotériques, ou plus ou moins païennes. Et là, on a vraiment le souci d'une mentalité du second temple, d'orthodoxisation des figures. Quelle est la demande du roi? Alors, elle est très intéressante. Regardons ici le texte. Je vais lire simplement ce qui est en rouge. Et il faut absolument que je me déplace. Je ne peux pas, ce n'est pas possible pour moi de rester assis. Regardez, ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre des rois, il est évident que la demande de sagesse est liée par Salomon au gouvernement. C'est ce que j'ai mis ici en rouge. Salomon dit, « Toi, tu as témoigné envers ton serviteur David, mon père, d'une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur avec toi. Et tu lui as gardé cette grande fidélité, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône en ce jour. » Et on rajoute, « Maintenant, Adonai, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, mais moi, je suis un petit enfant, Nahar Katon, je ne sais comment aller, littéralement, je ne sais ni où je vais, ni d'où je viens. » Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, regardez dans le livre des rois, très clairement, la demande de sagesse est reliée à l'exercice du pouvoir royal par David et ordonnée au gouvernement. Et ce que demande Salomon, c'est un cœur intelligent pour pouvoir, comme David, gouverner le peuple. Or cela, regardez, n'est pas repris dans le livre des Chroniques. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le cœur sage a déjà été donné à Salomon. Mais il n'a pas été donné à Salomon pour régner. Mais il a été donné pour bâtir le temple. Et quand on regarde le livre des Chroniques, on s'aperçoit que le cœur sage a été donné à Salomon dans un tout autre contexte. Suivante. Regardez. C'est ce que dit le roi David en 1 Chronique 29, verset 19. « Donne à Salomon, mon fils, un cœur intègre, le Bab Shalem, pour observer tes commandements, tes ordonnances et tes préceptes, pour tout faire et bâtir le château Bira que j'ai préparé. » Vous voyez bien que le cœur intègre n'est pas donné à Salomon pour être gouverneur de ce peuple, mais pour bâtir le temple, Bira, le palais. Et ça, c'est important. Le chroniste a transposé, il connaît le motif du livre des rois, mais il a transposé dans un autre contexte qui l'intéresse et qui est la construction du temple. Et c'est repris de manière magnifique par Hiram de Tyr, puisque dans le chapitre qui suit au livre des rois, Hiram de Tyr glorifie Dieu en disant ceci. Hiram dit: béni soit aujourd'hui Adonai qui a donné à David un fils sage pour être à la tête de ce peuple si nombreux. Donc la bénédiction de Hiram de Tyr va absolument dans le sens, regardez, de la bénédiction d'un roi sage pour gouverner. Il s'appelle Huram dans le livre des Chroniques, mais le motif n'est plus le même. Huram dit encore, « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël qui a fait le ciel et la terre. » Il confesse le Dieu universel. De ce qu'il a donné à David un fils sage, doué de prudence et d'intelligence, qui bâtira une maison pour le Seigneur et pour lui une maison royale. Vous voyez bien que la sagesse était ordonné dans le livre des rois au gouvernement du peuple, alors que dans le livre des rois de Chroniques, elle est uniquement ordonnée à bâtir le temple. Et c'est par cette transposition, et c'est là qu'on voit l'exégèse intelligente du livre des Chroniques. Il reprend les ingrédients du livre des rois, mais il les orchestre de manière différente dans le récit. On a vu le thème du fils de Salomon qui est jeune et délicat, et sa transposition. Là, on voit comment il a transposé le cœur intègre du gouvernement à la construction du palais pour Adonai. Et Hiram de Tyr ne fait que redire ce qu'a dit David, c'est que la sagesse est octroyée pour bâtir le temple et non plus pour gouverner le peuple. Et là, on a une toute autre configuration. On a tous les éléments, mais configurés différemment. Et c'est la subtilité du chroniste. C'est que, regardez, il garde la source, mais dans un registre différent. C'est vraiment une réécriture intelligente, mais en même temps patiente du texte. Un tel propos éclaire donc le renvoi fait à Bethsalem en ouverture du récit, puisque lui aussi, ainsi qu'on l'a vu, est doté de sagesse pour construire son œuvre. Nous lisons ainsi, en Exode 31, versets 1 à 5, « Adonai parla à Moïse en ces termes, « Vois, j'ai appelé nommément Bezalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, habileté, adresse et savoir-faire pour tout travail. » On le retrouve également en Exode 35. « Moïse dit aux fils d'Israël, « Vois, Adonai a appelé nommément Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'esprit divin, habileté, adresse et savoir-faire pour tout travail. Une telle concentration sur le temple ne revient-elle pas à minimiser alors l'un des attributs majeurs de Salomon d'après les rois, la sagesse ? C'est la thèse de Sarah Yafet. Pour Sarah Yafet, l'absence en chronique du jugement, vous savez, le thème de le jugement, de le roi qui juge entre les deux prostituées, et surtout l'absence en chronique du jugement porté en un roi, chapitre 5, verset 11, « Il fut sage plus que n'importe qui, plus que l'Israël est âme, plus que les champs, etc. » serait intéressant de voir. Et pour Sarah Yafet, le chroniste minimise le thème sapientiel. A-t-elle raison ? C'est maintenant ce que je vais essayer d'analyser avec vous. Dans un premier temps, je vous ai montré comment le chroniste a transposé dans une autre symbolique le thème sapientiel. Faut-il dire pour autant que le Salomon des chroniques n'est pas un roi sage ? Merci de me poser la question, mais essayez d'y répondre. Suivante. Réponse de Dieu et pas de Philippe. Voilà. Quand même. C'est moi qui vais vous répondre. Alors regardons d'abord le texte. Vous voyez que le texte le livre des chroniques est beaucoup plus restreint que dans le livre des rois. Hein? C'est les versets 11 à 14 du livre des rois et qui sont résumés en deux versets dans le livre des chroniques. À la suite de Japhet, je fais deux remarques qui abondent dans son sens. Mais il faut toujours se méfier quand on abonde dans le sens de quelqu'un. Ça veut dire qu'après, il y aura un coup de jarnac de ma part. Je crois qu'elle a raison de montrer qu'ici, le chroniste abrège sa source. Mais surtout, là où le narrateur du livre des rois établit clairement un strict parallèle entre deux éléments du don, un cœur sage et intelligent, la richesse et la gloire, regardez, on a ça de manière très très claire dans le verset 14, un cœur sage et intelligent d'une part, richesse et la gloire. La réécriture du chroniste semble mettre l'accent seulement sur la richesse et la gloire au détriment de la sagesse et de la connaissance. Donc sur ce point, elle a raison. Mais est-ce qu'elle ne force pas trop le trait ? Et là, je vais vous montrer que je prends ma distance avec Yafet. S'il est indéniable que le récit du songe prend une plus grande ampleur dans le récit du livre des rois, celui des chroniques n'occulte en rien la sagesse. Plutôt, il lui donne, dès l'introduction, une autre orientation sapientielle. Au service d'une thématique principale qui est moins de dresser ici le portrait d'un roi sage à la modèle de, sur le modèle d'un souverain oriental que celui du constructeur du temple choisi par Dieu sur le modèle d'un grand prêtre. Une telle focalisation du récit explique sans doute d'autres omissions importantes, comme par exemple le fait que le chroniste ne retienne pas le jugement rendu par le roi en 1 roi 3, ça ne rentrait pas dans son modèle. Il ne reprend pas non plus la grande séquence dans laquelle on vous dit que du temps de Salomon, eh bien Salomon connaissait tous les proverbes et qu'il a écrit beaucoup de Meshalim, et que à son époque, eh bien, on mangeait très bien, chacun sous sa vigne et son olivier. Donc les chapitres 4 et 5, qui sont une sorte de miroir du prince, ne sont pas repris. Et ce n'est qu'après cette longue mise en place de la figure que l'intérêt se concentre sur le temple. Donc pour le livre des rois, ce qui importe d'abord, c'est de montrer que Salomon est un grand souverain honoré par les rois de la terre, et c'est après tout cela qu'on parlera du temple. Or, que fait le chroniste? Il juxtapose le songe de Gabaon et la construction du temple. Pour lui, il n'y a le songe de Gabaon n'est que l'introduction à la construction du temple. On le voit d'ailleurs dès la conclusion du récit suivante. Le retour. Allez-y, regardez. Le récit s'achève ainsi. Salomon ordonna de bâtir une maison pour le nom d'Adonai et une maison pour sa royauté. Vous le voyez bien, le chroniste, lui, à la différence du livre des rois, a juxtaposé le songe de Gabaon, qui est une sorte de pèlerinage aux sources mosaïques de la foi, et la construction du temple, qui est d'intégrer dans les traditions de Sion, de Jérusalem, les traditions du désert. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 18, sont très intéressants, et surtout, regardez, il va transposer de manière très intelligente ce que vous avez en finale du livre des rois. Car regardez les versets 14 à 17 qui détaillent les richesses du royaume de Salomon. Je vous lis ces versets. Salomon rassembla des chars et des chevaux. Il avait 1400 chars et 12 000 chevaux qu'il installa dans des villes de chars et près du roi à Jérusalem. Le roi fit que l'argent et l'or à Jérusalem étaient comme les pierres, et il donna que les cèdres étaient comme des sycomores du bas pays aussi nombreux. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de Coé, et les marchands du roi allaient à Coé les prendre au prix fixé. Puis ils montaient et ramenaient d'Égypte Mousserie, est-ce que c'est l'Égypte, est-ce qu'il faudrait dire l'Égypte ou autre chose, un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150. De même, pour tous les rois des Hittites et les rois d'Aram, de leurs mains, ils en exportaient. Il va transposer la finale du livre des rois. Ce texte, vous l'avez en 1 roi 10, après la visite de la reine de Saba. Ce qui fait que dans le livre des rois, la grandeur commerciale et la richesse de Salomon étaient liées à la grandeur du roi connu par les grands de la terre. Et ce texte apparaît après, dans le livre des rois, après l'arrivée de la reine de Saba à Jérusalem. Or, il transpose ce passage comme introduction au temple. Et pour lui, la richesse du roi n'est pas liée au commerce international. Ça, c'est le livre des rois. Mais la richesse du roi est liée à l'œuvre de construction du temple. De même, il avait dit, rappelez-vous, mais vous connaissez par cœur le livre des chroniques comme moi, en 1 Chronique 18, il disait que David avait fait de grandes guerres et que le butin des guerres, David l'avait entassé à Jérusalem pour bâtir le temple de Jérusalem. Donc, quelque part, les butins de guerre de David étaient au service du temple et les richesses de Salomon sont au service du temple. C'est-à-dire que, quelque part, le livre des chroniques n'est pas moins sapientiel que le livre des rois, en ce qui en ce qui concerne Salomon, mais la sagesse se trouve totalement subjuguée par le culte. C'est comme constructeur du temple que Salomon apparaît un roi cultuel et non comme roi sur le modèle des nations. Et je pense que effectivement, ce faisant, l'auteur prend ses distances avec une figuration de Salomon bâtie comme Cyrus le Perse, comme un empereur de l'époque. Mais il inscrit Salomon sur le modèle sacerdotal du grand prêtre, et toutes les richesses du temple, toutes les richesses du pays sont au service du temple. Je rappelle qu'à l'époque, les temples servaient de banque, et que les particuliers n'avaient pas de coffre-fort, mais que les temples servaient de coffre-fort. C'est pourquoi d'ailleurs on les pillait, et que Cyrus même le Grand meurt en plein pillage de temples, quelque part là-bas, en Élamite, c'est-à-dire aujourd'hui en Iran. Vous voyez comme quoi les églises étaient très riches à l'époque, on pouvait les piller. Voilà. Je pense que c'est la dernière. Voilà, je voulais vous montrer cela par cette lecture. Donc, il nous reste du temps pour pouvoir effectivement reprendre un élément. Mais je voulais montrer comment le chroniste, avec grande subtilité, lit un texte, celui du Livre des Rois, mais il en fait tout autre chose. C'est comme Canada Rail, ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Voilà. Oui. Le Canada Rail, ça ressemble à du whisky, mais ce n'est pas du whisky. Donc ça ressemble au Livre des Rois, mais ce n'est pas le Livre des Rois. Voilà. Oui.
Je suis frappé par la distinction que nous avons dans le texte sur d'une part la maison du Seigneur et d'autre part la maison pour la royauté.
C'est le palais royal.
C'est ça, mais il me semble que je n'ai pas souvenir, pour ça qu'on distingue si...
Si, dans le Livre des Rois, si, bien sûr, bien sûr. Parce que vous avez la construction du temple et après la construction du palais royal. Hein. Voilà, bien sûr. Les deux étant très liés, là, il reprend sa source. Hein. Si, on a ça, la même chose. Là, quand il dit la maison de la royauté, c'est le palais royal. On a les deux choses dans le Livre des Rois. Mais ce qui m'a intéressé de vous montrer ici, c'est comment, finalement, le chroniste a totalement transformé le récit du songe, alors qu'on croit que c'est très semblable. Mais c'est tout à fait différent. Et le parallèle me semble probant à ce niveau-là.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Une question plus historique.
Oui.
Le vrai temple de Salomon, le vrai Salomon historique.
Oui.
C'était quoi ?
Bon, on n'en sait rien. On ne peut pas le savoir. Parce que le vrai temple, on n'a que le récit biblique. Mais le récit est écrit à distance, bien sûr. Et il faudrait faire des fouilles. C'est pas la peine de commencer, parce que si vous commencez un coup de pioche sur l'espace des mosquées, vous déclenchez l'apocalypse. Pas la peine. Donc, et puis en même temps, je suis pas sûr qu'on le sache. Parce que lorsque Hérode le Grand va commencer les constructions du temple, de son propre temple, il a fait araser totalement les constructions qui étaient avant lui. Ce qui fait que je ne suis pas sûr qu'on trouverait grand-chose du temple de Salomon. Parce que les fondations du temple d'Hérode, on trouverait les fondations du temple hérodien, qui commence en 19 avant Jésus-Christ, et qui s'achève une quarantaine d'années plus tard. Mais je ne suis pas sûr qu'on trouverait grand-chose du temple de Salomon. Il est sans doute sous l'esplanade des mosquées, mais aujourd'hui complètement arasé par les fondations du temple d'Hérode le Grand. Dans les fondations du temple d'Hérode le Grand. Parce que le temple qui a été détruit par les Romains, c'est le temple reconstruit par Hérode le Grand, bien sûr. Donc, qui a commencé en 19 avant Jésus-Christ. Donc, ce qu'on peut dire quand même, c'est que sans doute que le temple de Salomon, par la description qu'on a du Livre des Rois, ressemblait profondément aux constructions syriennes de l'époque. Parce que cette construction en enfilade avec un houlal, un vestibule suivi d'un hekal, la maison, le saint, et d'un débir, le saint des saints, on le trouve par exemple à El Taïmat, qui est un temple syrien de la fin du premier millénaire, ou d'autres temples datés du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui montre bien que les artisans du temple de Jérusalem devaient venir de Syrie. Il est sur un modèle connu, absolument connu, et vous avez une réduction, entre guillemets, du temple de Salomon, qui, elle, est visible, c'est à Arad. À Arad, on a donc un temple qui effectivement, on retrouve ici un parvis, un grand autel des sacrifices, un Hécal et un Débir, donc un saint et un saint des saints, et à Arad, on a une réplique qui était détruite sans doute à l'époque de Ézéchias, c'est ce que tu disais hier, mais un temple judéen qui date du 8e siècle. Or, pourquoi a-t-il été détruit par Ézéchias? Dans le saint des saints de ce temple, il y a deux pierres dressées, Adonai et son épouse Asherah. Et vous voyez bien que ce temple judéen n'était pas très orthodoxe pour un Ézéchias. Parce que dans le temple, il y a deux matchbot, il y a donc Adonai et Asherah. Et comme tu le disais, on a trouvé des inscriptions du 8e siècle qui dit par Adonai et par son Asherah. Qui n'est pas, comme le dit le maire, qui veut gentiment un bosquet sacré, mais c'est l'épouse de Dieu. Et je trouve que Romer a raison. Mais il y avait une épouse royale. Il y avait une statue de la divinité dans le temple de Jérusalem. Ce que voit Isaïe. Quand Isaïe il voit la divinité avec les nuages d'encens, c'est sa vocation. Thomas Romer a démontré qu'il y avait une statue d'Adonai dans le temple. Ce que pieusement la Bible ne dit pas, mais elle le laisse entendre. Mais Thomas Sommer a raison. Il ne faut pas oublier que le monothéisme, c'est vraiment, et l'aliconisme, c'est vraiment imposé difficilement à partir du 5e siècle. C'est l'époque perse. Et je pense que ce qui va conduire à cet aliconisme des choses, ça va être finalement le choc de l'exil. Je crois que quelque part, ils ont tellement vu de statues de Dieu à Babylone qu'ils ont dit non, basta, ça suffit. C'est les temples babyloniens qui leur disent non, ça c'est pas ça, c'est pas nous. Mais avant, vous savez, vous auriez été au temple de Jérusalem, je pense que vous n'aurez pas vu grande différence avec un temple araméen. Il ne faut pas oublier que la Bible orthodoxise beaucoup les choses, mais que l'archéologie parfois nous dit attention quand même, ne soyez pas entièrement dupes des choses. Alors le temple, que Salomon ait bâti un temple, certainement. Mais le temple qu'on a dans le livre des rois, c'est l'état du temple de l'époque de Josias. Voilà. C'est-à-dire que de l'époque d'écriture du récit. Ce qui est normal, bien sûr.
Le second temple, c'est là que vous avez parlé.
Le second temple, c'est le temple bâti après l'exil, le temple de Zorobabel, à Jézacharie. Ce qu'on appelle le second temple, c'est la période du temple qui est bâti à partir de 520, donc par Zorobabel. Et sous l'égide des prophètes Agé et Zacharie, et qui va durer jusqu'à sa destruction. Mais ce second temple de Zorobabel va être agrandi et totalement réorganisé par Hérode le Grand. Voilà. Il avait un problème, le second temple, par rapport au premier temple. Et c'est pourquoi on le grandit. C'est qu'il y manque l'essentiel. C'est que dans le premier temple, il y avait l'Arche d'Alliance. Or, cette Arche a été détruite. Emportée et détruite. Ce qui fait que le second temple, il est vide. Et d'une certaine manière, vous voyez bien que c'est pourquoi on va le glorifier dans les récits, parce que quelque part, la Shérina y est moins importante et moins puissante. Lisez les textes. Et d'ailleurs, quand on lit le texte de l'édification du temple, du second temple par Zorobabel, on a ça dans le livre d'Esdras, eh bien, les anciens pleurent. Parce qu'ils trouvent que c'est tellement petit et modeste par rapport à la grandeur du temple précédent. Voilà. Et on dit qu'il y a la joie et les larmes. Et donc c'est à partir de là que finalement, ce que le temple va perdre en grandeur, il le gagne en profondeur spirituelle. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre également la belle vision d'Isaïe qui dit « Mais comment pouvez-vous prétendre me bâtir un temple ?» alors que les cieux ne peuvent me contenir. C'est Isaïe 63. Et vous voyez bien que quelque part, la grandeur du temple, elle devient spirituelle, et ce qui fait qu'on magnifie, et c'est ce qui fait que je crois que le chroniste, quand il décrit le temple salomonien, il revient plus au modèle du désert, la tente du désert, que le temple de Salomon qui n'existe plus. Mais il décrit à partir de la tente du désert parce que c'est magnifié par les grandes traditions israéliennes. Voilà. Et quelque part, ça devient un temple qui ensuite sera spirituel et d'Apocalypse. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, on a oublié que, voilà, et on vous dit d'ailleurs qu'au second temple, la Shérina est moins importante, parce que justement, il n'y a plus l'Arche d'Alliance. Et que l'Esprit Saint se fait moins entendre. Et que les rabbins pharisiens diront même qu'il s'est éteint avec les derniers prophètes. Et que dans le livre de Zacharie, on a retrouvé des pieds, quand on va désacraliser, resacraliser le temple profané par Antiochus Épiphane, on trouve des pierres dont on ne sait pas quoi faire, on les met de côté, on attend qu'un prophète se prononce là-dessus. Il n'y a plus de prophète. Et donc, on est dans l'attente, finalement, le livre des Maccabées montre qu'on est dans l'attente d'un retour de l'Esprit Saint. Et vous voyez l'importance de l'ouverture des cieux dans le récit du baptême de Jésus. C'est que les cieux étaient fermés et ils s'ouvrent avec Jésus. On retourne à l'ère prophétique. Alors que le second temple, c'est plus l'ère des prophètes, c'est l'ère des rabbins. C'est le règne de la Torah. C'est pas pour rien que l'évangile de Saint Marc commence par l'ouverture des cieux.
Alors justement, j'aurais aimé que vous puissiez dire quelque chose sur la prise de possession du temple, à Dieu qui entre dans le temple. Là,
je ne veux pas prendre le micro.
Le deuxième livre des Chroniques, on décrit comment la gloire de Yahvé,
Adonai,
prend possession du temple. Est-ce que c'est décrit comme une ouverture des cieux avec Dieu qui descend du ciel pour venir dans le temple? Est-ce qu'on magnifie ça parce que justement la présence n'est pas évidente?
Alors, vous avez un magnifique texte. Merci de me poser la question, que j'ai écrit un article là-dessus, pour ça que je... Parce que j'ai écrit le temple dans le livre des Chroniques, dans une revue qui s'appelle Transfraten, que vous ne connaissez peut-être pas. Transfraten, c'est une revue qui est spécialisée sur les recherches à l'époque perse, de la Judée et de la Palestine durant l'époque perse. Et donc, j'ai écrit il y a quelques années un article sur la figure du temple dans le livre des Chroniques. Or, ce qui est remarquable, c'est ce là vous me citez, 2 Chroniques, chapitre 7e. C'est un magnifique midrash. Parce que quand vous lisez les versets, quelqu'un a-t-il une Bible? Voilà. Moi, je l'ai déjà rentré dans ma valise.
Merci, mais c'est petit. Hein.
C'est pas grave. Mais voilà, voilà. Ah oui.
C'est fort petit.
C'est fort petit. Je vous lis les versets qui sont remarquables. On vous dit, quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit, il consuma l'Holocauste, et les sacrifices et la gloire d'Adonai remplit le temple. C'est 2 Chroniques 7, verset 1. Vous voyez bien que là, c'est une reprise midrashique de quoi? De la finale de l'Exode. Exode 40. Le feu descend et la gloire d'Adonai remplit le temple. Donc quelque part, on lit ici la gloire de Dieu qui remplit le temple et c'est repris de Exode 40. Après, on vous dit, les prêtres ne purent entrer dans la maison du Seigneur. Là encore, c'est Moïse et Aaron qui ne peuvent pas rentrer, la finale de 40. Les enfants d'Israël voyaient le feu descendre et la gloire de Dieu reposer sur le temple. Ils se prosternèrent face contre terre. Et là, c'est l'investiture des prêtres aaronides dans le Lévitique. Donc, ce texte est un midrash qui va à la fois lier l'irruption de la gloire de Dieu dans le sanctuaire. Il le reprend à l'Exode. On le lit à l'investiture des prêtres aaronides dans le livre du Lévitique. Et donc, quelque part, c'est très intéressant parce que là, vous avez un midrash. Bon, la référence exacte, je ne l'ai pas en tête, mais je l'ai dans mon article. Un midrash fait à partir de ces deux éléments. Et c'est assez remarquable. C'est-à-dire que ce texte-là est un midrash qui combine à la fois, par la prosternation du peuple, l'investiture du sacerdoce dans le temple, et qui reprend les traditions exotiques. L'écriture du chroniste, elle est très proche de ce que sera plus tard le midrash. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans une écriture savante, mais aussi tardive. Parce qu'elle suppose quand même que déjà l'autorité des textes est telle qu'on peut s'appuyer sur eux pour dire quelque chose d'autre que des livres, comme le dit Samuel Roy. Il fallait l'intelligence de l'auteur, c'est qu'il appuie l'autorité de son écriture sur l'écriture, ce qui lui permet de contester la version concurrente du livre des Rois. T'es intelligent, le type. Pas le type. C'est un groupe de lévites. J'aimerais bien le connaître un jour. Peut-être qu'il est tout bête, et tout, mais en tout cas, c'est un livre extraordinaire. Vous savez, c'est comme partout, quand on commence à travailler, à goûter quelque chose, au début on dit « qu'est-ce que c'est rance ?» Mais après, « qu'est-ce que c'est bon ?» Voilà. Voilà, donc, alors je pense que effectivement, cette grandeur attribuée au temple vient du fait que effectivement, on lui trouve des lettres de noblesse. Parce que précisément, le second temple n'a pas de lettres de noblesse. Et quelque part, c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant, merci de votre question, pourquoi le chroniste va-t-il lier le lieu du temple et le sacrifice d'Abraham? Parce que précisément, il n'y a plus le saint, il n'y a plus l'arche d'alliance, mais il y a la référence au patriarche. Et le sacrifice d'Isaac, ou la ligature d'Isaac, comme dirait la Keda d'Isaac, comme diraient nos frères juifs, permet d'interpréter la place du temple, le mont Moria, le pays de Moria. Donc quelque part, vous voyez bien que les lettres de noblesse du temple, pour le chroniste, ne sont pas dans les attributs, mais elles sont scripturaires. C'est ce que fait exactement l'auteur des Maccabées. Quand il décrit Judas Maccabée, il le décrit sur le modèle des juges, du livre des juges. Et quelque part, la dynastie asmonéenne issue des Maccabées n'a pas de titre de noblesse, puisqu'elle n'est pas davidique, mais son titre de noblesse est de continuer scripturairement l'histoire des juges. Et ça, je pourrais vous le montrer, c'est un autre, voilà. Voilà. Une autre, mais j'ai écrit quelque chose là-dessus. Tu voulais dire quelque chose?
La référence d'où vient ce que c'est un classique dans le judaïsme, que le temple est le nombril du monde et l'Éden.
L'Éden, oui, bien sûr. Voilà.
D'où, à quelle époque et quand peut-on le dater?
Oh ben ça, je pense que tu l'as déjà chez Ézéchiel. Que chez Ézéchiel, très intéressant Ézéchiel, puisque Marie-Odile faisait allusion à un très beau texte d'Ézéchiel, dans Ézéchiel parle du roi de Tyr, et c'est un midrash sur l'Éden, et il cite l'Éden. Mais quand on regarde sa description du temple, la grande vision du temple chez Ézéchiel n'a rien à voir avec le temple empirique. C'est déjà un paradis terrestre reconstruit. Et d'ailleurs, avec quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'espace même change, puisque le nom s'appelle Adonai Shama, Dieu là. C'est-à-dire, Jérusalem change de nom à la fin. C'est Dieu est là, hein, puisque le dernier mot de la vision, c'est Adonai Shama, Dieu là. Et donc, quelque part, on commence par le prophète est transposé depuis la Babylonie jusqu'à Jérusalem. Et il traverse cet Éden magnifique avec le fleuve d'eau vive qui rappelle les fleuves du paradis. Et en plus, le jardin refleurit. Et ce désert qui refleurit, c'est bien le paradis. Et tu as à la fin, on n'appellera plus la ville Jérusalem, mais Adonai Shama, Dieu est là. Or, c'est intéressant parce qu'il faut bien sûr lier cette vision d'Ézéchiel avec le fait que la gloire quitte le temple, Ézéchiel 8 à 11. Et le départ de la gloire se retrouve inverti dans la grande vision finale du livre, qui déjà nous conduit vers de l'apocalyptique. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hanson, parce que Hanson fait de Ézéchiel le père des courants hiérocratiques. Or, le livre d'Ézéchiel, il y a aussi de la vision visionnaire. C'est un livre très complexe, Ézéchiel, parce que, d'abord, qui fut Ézéchiel? Alors, c'est pas grand-chose, mais le livre lui-même est une sorte de traversée de tous les grands courants. Gog et Magog, c'est une vision magnifique, mais apocalyptique. Mais je fais le cours sur Ézéchiel à la faculté de théologie. Mais j'aime beaucoup Ézéchiel. J'aime le baroque, donc je ne peux qu'aimer Ézéchiel. Voilà. Mais Marie-Odile, tu peux peut-être venir aussi répondre aux questions. Hein. Voilà. Oui, il faut venir. Voilà, tu vois, comme ça. Voilà. Non, parce que il était prévu une table ronde, comme ça on fait une table ronde, que je ne monopolise pas le. Pour répondre aux questions. Il y a les entrecroisements entre nos différentes... Alors, est-ce que l'auteur de Proverbe 31 connaissait les chroniques? Ça, je ne sais pas. Mais bon, peut-être que Marie-Odile aura des lumières là-dessus.
Il faudra peut-être encore travailler, mais c'est vrai que la dimension culturelle supposée par ce texte et le fait qu'il s'agisse des proverbes de Salomon, ça m'a fait poser la question ce matin au père Ravadi.
À Philippe.
Oui, à Philippe, voilà. Et encore ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'homme du poème et ce culte qui correspond à peu près les termes de ce que j'ai essayé d'expliciter de la chose, c'est pas du tout contradictoire, c'est déjà le minimum de dire ça avec ce que Philippe nous a dit. Après, pour dire les choses de... parce que c'est un poème, donc c'est allusif. Alors après, pour le justifier.
Parce que la petite question que j'avais quand même à Marie-Odile, c'est que effectivement le thème du machal, du proverbe, est peu présent dans les chroniques. Hein. C'est-à-dire que le vocabulaire sapientiel est peu présent. Mais en même temps, on a deux types de discours. On a un texte en prose, on a un poème. C'est normal que ça n'a pas le même vocabulaire totalement. Le thème sapientiel est très présent dans les chroniques, on le voit bien, mais transposé sur le constructeur du temple, plus que sur les machals et sur les paraboles et les proverbes, et le gouvernement même du peuple. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que le chroniste fasse de Salomon un auteur de proverbes, mais en même temps, il en fait... Voilà, oui, mais toute la richesse est liée au temple. Alors, est-ce qu'après, on va essayer, est-ce que ton poème, c'est une question que j'ai de Proverbe 31, n'essaye pas finalement d'harmoniser la vision de roi et de chronique, et donc quelque part d'articuler ces deux visions, peut-être, du roi sage et du bâtisseur du temple, et quelque part d'entrecroiser les deux lignes de pensée, peut-être, mais c'est à voir et à vérifier.
Il y a juste une question que je me posais à propos des vêtements, c'est que je crois qu'en chronique, quelque part, on lit que les prêtres avaient un vêtement de salut.
Oui, bien sûr.
Et donc, je pensais toujours à ces fameux textiles.
Ah ben, David, non seulement il n'est pas nu quand il transfère l'arche, mais en plus, il a un vêtement sacerdotal qui va jusqu'au pied. Il ne faut surtout pas qu'on voit des choses indécentes. Donc, quelque part, on voit bien que... Parce que quand même, le chroniste, c'est un curé un peu pudibond, il faut dire qui est quand même, l'auteur. Hein. Il a quelques... Voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses comme ça qui seraient à voir.
Sinon, j'aurais tendance... En fait, jusqu'à présent, je n'ai pas vu que mon poème s'appuie sur chronique.
Non, je ne crois pas. Je crois pas.
Mais peut-être qu'il est à peu près contemporain, ou un petit peu après, en tout cas... Ce qui m'apparaît, c'est qu'il mise sur les écritures largement.
Largement.
Il suppose un certain état des écritures dont disposaient les scribes au temple et chronique aussi, il dispose des écritures, mais il fait mon auteur, l'auteur de notre poème Proverbe 31, c'est frappant. Il utilise les psaumes, il utilise les prophètes, il utilise le Pentateuch. C'est comme en fait une espèce de reprise, je ne sais pas comment la qualifier, mais par rapport à chronique, c'est effectivement une posture différente.
Alors, mais il y avait un article assez ancien et qui est très intéressant de André Robert, qui s'appelait « L'écriture anthologique ». Et il montre que l'un des traits caractéristiques des écrits tardifs de la Bible, c'est une écriture anthologique, une écriture à partir d'écriture. Et je pense que les procédés sont les mêmes. Et donc, je pense que le chroniste, comme l'auteur du poème, mais comme le Siracide, à partir de l'Éloge des Pères, et d'ailleurs, dans l'Éloge des Pères, je le disais, le Salomon de l'Éloge des Pères et David, c'est plus celui des chroniques que celui de Samuel le roi, bien sûr. Je crois que c'est une caractéristique, ce qui montre quelque chose d'intéressant, alors d'un point de vue historique, c'est la canonisation en cours des écrits. C'est-à-dire, quelque part, la sélection qui fait que certains écrits sont suffisamment autorité pour qu'on puisse s'appuyer sur eux pour bâtir une écriture nouvelle. Or, je pense que ce qui caractérise les scribes du Second Temple, c'est que leur écriture nouvelle, elle s'inscrit dans une tradition plus ancienne. Ils n'innovent pas totalement. Et là, c'est comme les rabbins. Les rabbins, ils s'inscrivent dans une ligne de tradition. Mais là, il y a une ligne de tradition. Et c'est très vrai aussi des Maccabées. Je l'ai montré dans le premier livre des Maccabées, le portrait de Judas dans un Maccabée, c'est le portrait de Gédéon. Quelque part, on a repris les traits du livre des juges, et quelque part, on écrit Judas Maccabée sur le modèle des juges, parce que quelque part, il faut justifier scripturairement une écriture nouvelle. Et en cela, je trouve que là, il y a des points intéressants pour toute l'écriture des écrits du Second Temple. Et les rabbins feront pareil, mais avec d'autres, dans des chaînes de mémoire.
Mais il y a une différence quand même, enfin, qui m'apparaît assez clairement, c'est que le chroniste ne donne pas d'indication. Enfin, je peux me tromper, mais il ne donne pas d'indication d'écriture. Il fait un nouveau texte pour que les textes anciens ne meurent pas. C'est ce que vous disiez, tu disais hier. S'il a fait ça, c'est pour que toute cette tradition ne meure pas, mais qu'elle puisse être
ravivée, voilà. Oui.
Alors que dans le poème sur la femme vaillante, je me demande bien s'il donne pas. J'ai bien l'impression qu'il donne des tas d'indications de lecture. C'est-à-dire que pour ses lecteurs, ses étudiants, ben, c'était allez voir ça, allez voir ça, allez voir ça, et vous allez comprendre, ça va faire une orchestration. Voyez la différence.
Je vais poser une question, là, justement. Est-ce qu'on n'a pas abordé ce point-là? Est-ce qu'on pourrait dire que les chroniques, c'est une littérature savante et que les proverbes seraient une littérature plus populaire? C'est-à-dire que le proverbe a le souci, d'une certaine manière, de donner, de transmettre quelque chose au peuple, alors que le chroniste aurait le souci de...
Alors là, vous posez une question très terrible et impossible à résoudre. Mais une bonne question, c'est qui était lecteur de ces textes? Et je me souviens d'avoir lu il y a quelques années un excellent article traduit en français de Lofink, c'est Robert... oui, Lofink, et c'est remarquable, et c'est paru dans un cahier évangile, c'est traduit dans un cahier évangile sur les traditions de Théronouille. Il dit finalement... Il y a peut-être eu 30 lecteurs des livres de l'historiographie de Théronomiste. Donc, qui était lecteur de ces textes? Donc, effectivement, on est dans une époque qui est illettrée, où la majeure partie des gens ne lisaient pas. Donc, c'est une écriture très savante l'une et l'autre. Mais on se fait plaisir dans les cercles de disciples. Mais le vulgum pecus ne connaissait pas les chroniques, ne connaissait même pas tous ces écrits. On n'est même pas sûr que dans les synagogues, on avait l'entièreté des textes bibliques. La Torah, certainement. Deutéronome, certainement. Isaïe, sans doute. Mais le reste, quand on était dans une synagogue riche, oui, mais ça coûte tellement cher. Or, c'est très intéressant de regarder les citations bibliques dans le Nouveau Testament. J'en ai fait un jour un compte. Eh bien, c'est bien sûr la Torah, mais c'est d'abord, c'est surtout le Deutéronome. C'est Isaïe et c'est les psaumes. Après, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est sûr que les auteurs des écrits néo-testamentaires connaissaient bien le Deutéronome. Jésus, il discute tout le temps, regardez les récits de tentation à partir du Deutéronome. Il connaissait les psaumes à cause de David, bien sûr. Il connaissait Isaïe par les grandes prophéties messianiques. Les autres textes bibliques sont peu cités. Quelle était la connaissance qu'avaient les gens des Écritures? À part quelques savants. Ça, c'est une question... parce que nous, on a l'habitude d'avoir des Bibles reliées. Mais les codex n'apparaissent qu'au IVe siècle. Avant le IVe siècle de notre ère, il n'y a pas de codex, il n'y a pas de livre relié. Il y a quelques textes épars, et dans des synagogues riches, on a tout le Pentateuque, mais je ne suis pas sûr que partout, on ait eu tout le Pentateuque.
Pour répondre à la question d'André... Moi, je ne crois pas que l'auteur de Proverbes 31, 10, 31 s'adresse à des gens qui n'ont pas de connaissances.
Non, c'est pas possible.
Parce qu'il y a tellement d'allusions. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il s'amuse. C'est-à-dire que, j'ai pas pu insister, mais par exemple, quand il dit que la maisonnée ne craint pas la neige parce qu'elle a double vêtement, on voit en même temps toute une troupe de gens en rouge dans la neige. C'est le jeu. Et donc c'est très plein d'humour et plein d'humilité. C'est-à-dire que c'est, on peut voir le milieu sacerdotal qui ne se prend pas au sérieux, qui à la fois sont les péchés pardonnés, mais cette bande d'Israélites en habit de culte, mais dans la neige, c'est assez cocasse. Ça évoque le petit ver Jacob, le peuple qui est rouge, le petit ver qui sert à fabriquer la pourpre. Hein. Et bon, de même avec les petites dames, les combattantes, il y en a qui cassent leur miroir, il y en a qui sont fileuses, etc. Il y en a partout. Bon, et les oiseaux aussi. Enfin, tout ce jeu. Je pense que vous avez dû voir tout à l'heure la sorte de réponse que fait Job à Proverbe, et Coëlette aussi qui répond à Psaume 102 et à la femme vaillante. Ce sont des intellectuels qui discutent de leur façon de voir le culte.
Absolument. Mais c'est dans des cercles.
Justement, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Marie-Odile, de la perspective théologique de ces gens-là? C'est un cercle très restreint. Qu'est-ce qu'ils visent à travers ça, sinon s'amuser?
Ah non, c'est ça.
Bah, si vous voulez, c'est parce que moi j'ai l'esprit ludique. Hein. Je suis une petite fille qui aime bien rire.
Mais... comme la sagesse.
Peut-être.
Proverbe 8.
Mais, si vous voulez, derrière, parce qu'il y a des choses gigantesques derrière. J'espère que vous l'avez quand même compris. Hein? Bon. Oui. Voilà. Parce que bon, Job, c'est toute la... C'est des questions...
De la justice.
Oui, de la souffrance, de la justice, mais... Est-ce que le salut qui est dans le... Où est le salut? Est-ce qu'il est dans le système ou est-ce qu'il est hors système? C'est une question... je sais pas comment... Est-ce qu'on peut dire là? Tu voulais les enjeux théologiques, c'est ça, Catherine?
La perspective théologique, c'est-à-dire que les gens qui écoutent ça, on sent que c'est savamment pensé, que c'est héritier de plein de choses... Mais est-ce qu'il y a une intention théologique derrière de délivrer, enfin, de dire quelque chose au niveau de la foi?
Oui. Oui. Ça me paraît évident. Seulement, il faudrait alors avoir plus de temps, parce que si vous voulez, on est obligé de repérer les épis, enfin les manifestations, les... Après, il faudrait redescendre et puis reposer bien. J'ai essayé de dire la grandeur de ce que fait la charité de la femme. Ça invite l'Israélite à être charitable, mais ça se base sur la grande charité du Seigneur. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est un petit peu comme nous. Nous devons être aimés comme il nous a aimés, si vous voulez. Nous ne pensons plus que le second temple est le lieu du salut, puisque Jésus est venu. Hein? Et donc c'est lui qui nous dit quel est l'amour de Dieu et comment être image de Dieu. C'est lui qui nous l'apprend. Voyez ? Donc voilà, si on veut aller au niveau des enjeux théologiques et au niveau de la profondeur, qu'est-ce que c'est que la charité ? La charité de l'homme ? Voilà.
Moi, en t'entendant, comment j'ai compris ce que tu disais, je crois que l'enjeu de tous ces récits est simple et compliqué. C'est que quelque part, c'est d'où vient le salut. C'est une question importante que connaissent tous les croyants à chaque époque. Et quelle est la source du salut? Et on voit très très bien que pour l'auteur des Proverbes, il y a sans doute derrière la femme le temple, mais aussi la Torah, je pense. Je suis frappé quand même par les images magnifiques de la loi dedans. Pour l'auteur des Chroniques aussi. Et puis c'est peut-être le texte de Job et de Colette qui dit « ça ne suffit pas ». Et on voit bien que la grande question quand même qui est posée par ces textes, c'est le rapport entre l'élaboration théologique et le réel. Et que Job dit, c'est très bien ce que vous faites, c'est parfait comme construction théologique, oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le réel. Et la question de Job, elle n'est pas celle de la souffrance pour moi, mais elle est celle de la justice divine. Et quelque part, comment peut-on affirmer que Dieu est juste et qu'en même temps, on soit témoin de la souffrance de l'innocent ? Et c'est une question éternelle, qui est celle d'ailleurs d'aujourd'hui, hein, et qui génère l'athéisme d'ailleurs. Et l'intérêt de Job, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Parce que Dieu, il répond par une boutade. Dans les chapitres 38 à 39, il est un peu raide quand même, il lui dit, mais qui es-tu pour m'interroger? Est-ce que tu étais là quand j'ai fondé le monde? Mais il a une très belle réponse, Dieu, ici quand même. C'est qu'il dit que le monde n'est pas encore achevé. Et qu'il montre que le combat contre Léviathan et Béhémoth, la Bégie c'est affreux, le crocodile et l'hippopotame. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a traduit comme ça. Mais Léviathan et Béhémoth, c'est bien plus important. C'est que le monde est encore secoué par des forces de mal et de mort. Dieu est engagé dans le combat, mais il n'a pas vaincu le mal. Et quelque part, je trouve que Job est très intéressant à ce niveau-là. C'est parce qu'il montre que Dieu, il est engagé dans un combat contre le mal au cœur de la création, mais que l'issue n'est pas encore achevée. Et on est au début de la création. Et moi, je le relis à saint Paul quand il dit que la création gémit en attente d'enfantement. Et c'est la seule réponse possible à l'athéisme. Parce que si Dieu est tout-puissant à créer le monde achevé et magnifique, comment expliquer le mal et les catastrophes? On peut expliquer qu'en fumant trop, on attrape un cancer. Mais quand vous expliquez que la terre tremble et qu'un enfant meurt, vous voyez bien que quelque part, il faut bien la théodicée, c'est toujours très dangereux. Et je trouve que Job a raison de montrer que tout discours de théodicée doit être contrôlé par le réel. Et je pense que c'est les contrepoints magnifiques, Job et Coëlette, parce que Coëlette c'est un discours de croyant, mais des contre-feux magnifiques contre des discours trop bien huilés, comme celui du chroniste et peut-être celui de Proverbe 8. On dit que c'est magnifique comme construction, mais comment ça fonctionne dans le réel? Et on est pris entre la théologie et l'enfo, autrement le serait au chômage, et en même temps l'affrontement au réel. Je ne sais pas comment tu vois toi Jacques, mais voilà.
Je dirais simplement une petite chose.
Viens là.
Je dirais simplement une petite chose. Les deux se situent avant les Maccabées.
Avant
la persécution d'Antiochus Épiphane. Oui, et là, la persécution d'Antiochus Épiphane va peut-être changer un petit peu.
Il y a une chose aussi, je crois, c'est que vous avez goûté avec Proverbe 31 le registre du Machal. Job dit clairement qu'il le reprend. C'est un registre plaisant. On voit même à la fin, je n'ai pas eu le temps d'y assister, mais c'est dans vos papiers, un Job moribond. Et on voit une musique funèbre qui commence à monter. Mais c'est de l'humour, vous voyez. Bon. Et donc on est là devant l'esprit juif qui n'est pas, si vous voulez, d'ailleurs quand ils parlent des chrétiens, je crois qu'ils ont une idée qu'on est très compassé, alors que sur Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça nous dépasse. Hein, donc il y a l'idée derrière, certainement derrière ce genre littéraire, le fait d'être humble et de ne pas se prendre trop au sérieux, il y a une idée de la transcendance divine.
Bien sûr. Oui.
Ils utilisent la polysémie comme lieu de la transcendance.
Bien sûr.
Chaque fois que je posais une question en classe, c'est un avant-après, c'est une autre interprétation.
Oui.
Sous-entendu, cherche pas à chercher Dieu.
Et Coëlette a cette phrase extraordinaire, Dieu il est dans le ciel et l'homme il est sur la terre.
Voilà.
Et ça, c'est Dieu, il est dans le ciel et l'homme, il est sur la terre. Et quelque part, il montre l'infini distant. Alors c'est là que précisément le second temple va développer toute une angéologie, parce que plus on affirme que Dieu est transcendant, plus on a du mal à trouver l'intermédiaire. C'est là que les anges vont apparaître. Et les anges apparaissent dans les récits à ce niveau-là.
Et parallèlement, le tzimtzum.
Oui, absolument. Parce qu'il faut trouver effectivement des intermédiaires.
Voilà. Comment il peut se réduire pour parler aux hommes?
C'est ça. Parce que nous, en christianisme, on a l'incarnation qui permet de résoudre l'adéquation. Mais dans la tradition juive, il n'y a pas l'incarnation. Et donc, c'est là qu'effectivement, toute une ligne d'intermédiaires et d'angélologie se développe. Alors, il y a l'influence perse et iranienne, sans doute. Mais au-delà de là, c'est une manière aussi de... Et la sagesse le résout de manière très intéressante en disant que Dieu n'a pas créé la mort, mais que ce n'est pas l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, ce qui est une lecture ultime du récit de Genèse 3. Et donc, quelque part, parce qu'on a dans Isaïe, par contre, que Dieu a créé la vie et la mort. Et on voit très très bien que là, il y a vraiment un
et il y a et dans le texte de Qumran, il y a écrit le bien et le mal.
Bien sûr.
Le bien et le mal.
Et dans j'ai une relecture du Chroniste qui est très intéressante, qui s'inscrit dans cette lignée. Vous avez c'est la recension, le recensement du peuple par David en 2 Samuel 24. On vous dit Adonai incita David à, et c'est Dieu qui incite David à pécher. Or, dans la reprise du Chronique, c'est Satan qui incite David à pécher. Donc, on a remplacé Adonai par Satan, et c'est la seule occurrence de Satan sans article dans le livre hébraïque. Parce qu'il est avec un article dans Job et un article dans Zacharie. C'est l'accusateur. C'est la seule occurrence où c'est Satan. C'est la seule. C'est 1 Chronique 21. Verset 1, pardon.
Ce qui nous rend sérieux et grave, c'est l'incarnation et la croix.
Oui. Bien sûr.
Où Dieu se met à genoux devant l'homme et on sait jusqu'où. Et c'est ce qui nous autorise aussi à parler sur Dieu, ce que le juif ne fait pas.
Il y a une question, oui.
Une question très pratique. Est-ce qu'on peut préciser à peu près
dans le micro, parce qu'on n'entend pas.
Les dates des livres.
Oh là, non. On a des fourchettes.
Le père Abadi a commencé par dire que c'était... Quand il a commencé sa conférence hier, hein, il a commencé par...
Non, c'est impossible. C'est-à-dire que... faute d'argumentaire, d'argument probant, on ne peut pas donner des dates comme ça, hein. Ou alors j'aimerais bien. Mais j'ai dit, pour les chroniques, l'articulation entre la fin de la période du peuple et sans doute le début de l'époque grecque. On le sait de manière très claire, parce que David, figurez-vous, il paye en darik. C'est-à-dire qu'en 1 Chronique 29, David rassemble des trésors du temple, et dans le texte hébreu, c'est des darik. Or, les Dariques n'existent pas avant Darius II. Donc, c'est-à-dire que le texte ne peut pas avoir été écrit avant l'époque de Darius, donc en pleine période perse. À moins que David ait inventé les Dariques qui ont été redécouvertes sous Darius II. Donc, ça veut dire que l'auteur des chroniques connaissait que les euros, il ne connaissait pas les anciens francs. Voilà. Donc, il y a quelques éléments comme ça qui permettent de dater le texte, mais c'est modique. Après, c'est... Inch'Allah. Voilà. C'est tout après l'exil de toute façon, hein. Voilà. J'étais très content parce que là, moi, je vais avoir. Malheureusement, j'ai un train qu'il faut que je rate pas parce que j'ai cours demain. Voilà. J'ai cours sur un sujet un peu facile. C'est comment l'archéologie permet l'articulation complexe entre récit et archéologie. Voilà. Dans mon cours d'introduction à la Bible, je leur montre comment l'archéologie permet de regarder critiquement la chronologie biblique. Voilà. À la fois en positif et en négatif. Donc on va parler de la stèle de Dan, par exemple, mais aussi de Jéricho, qui permet quand même de voir que je vous renvoie à mon livre. C'est, voilà, sur l'histoire d'Israël.
Nous avons vraiment vécu un congrès, je le pense, assez exceptionnel, et exceptionnel à plusieurs titres. En tous les cas, moi je me souviens d'un 9 décembre où j'ai téléphoné au père Philippe Abadi.
Et où j'ai dit non au début, parce que je n'étais pas...
Et voilà, je n'avais pas visé suffisamment juste dans ma demande.
Ah ouais, elle me demandait de parler du Nouveau Testament, je ne connais rien.
Donc, nous avons reprécisé ensemble, et bien heureuse surprise, le père Abadi me dit, mais voilà, je suis spécialiste du Pentateuque et des chroniques, mais vous savez, j'aimerais vraiment être en dialogue avec quelqu'un de chez vous. Merci, merci beaucoup. Et je trouve que nous avons vraiment vécu un beau moment de dialogue.
Oui, agréable, très agréable. On va continuer la voiture. Hein.
ça nous réjouit vraiment. Et
nous ne savons comment vous remercier tous les deux de ce beau moment que nous avons partagé avec vous. Alors, dès le départ de ce congrès, quand le père Philippe Abadi est arrivé, il est allé voir tous nos documents et il m'a dit, mais moi ça m'intéresse, surtout, vous savez, l'exode et ce qui a suivi. Mais je dis, nous allons vous faire cadeau, et donc voilà, je vais même trouver un sac.
Ah, c'est, et que s'appelle Credo en plus.
Credo, mais ça.
Credo, c'est magnifique. J'aurai de quoi lire. Voilà. Oh, merci.
Alors, Marie-Odile, écoute, nous allons te faire cadeau, je pense, d'un livre qui va bientôt sortir, mais qui n'est pas sorti. Encore dans les librairies, c'est Marthe, écrivain et mystique. Mais aussi, nous voudrions t'offrir un petit soutien pour que tu puisses te donner le temps d'une petite pause inutile et nécessaire. Merci, super. Quelqu'un veut ajouter quelque chose à mon mot, le micro est disponible.
Peut-être signaler que Philippe parle, a beaucoup parlé sur RTL. Si vous avez chez vous la possibilité de réécouter des émissions en podcast, il a beaucoup parlé de la Bible. Voilà.
Les sœurs me disent que c'est vrai, que vous parlez beaucoup et très bien.
Ça va être prolongé. Après, les détails, vous trouverez sur Internet.
J'ai osé faire des émissions sur le récit de l'enfance, dont seul, alors que je connais rien.
Oui, oui, et nous continuerons à rester en dialogue, je l'espère, avec autant même Philippe Abadi que toi, Marie-Odile. Voilà, en tous les cas, encore un grand merci à tous les deux.
Merci à vous, Patrick.
Merci à Jacques aussi. Hein.
Remercier Jacques qui nous accompagne patiemment, qui est toujours là pour nous reprendre, nous réorienter, nous redire, nous repréciser. Voilà, il essaie de nous avancer en théologie, ce qui n'est pas toujours simple. Merci à Catherine. Merci à Catherine qui a pu aussi essayer de nous aider à réfléchir, mais comment allons-nous faire dans ce que nous avons reçu? Et on a fait si peu, elle est tellement désolée.
Mais normalement, c'est pas fini.
Et on n'a pas encore fini. Mais donc, on va essayer de la satisfaire.
Ben, c'est pas pour moi.
Mais pas pour toi, mais pour nous aussi, c'est aussi, bien sûr, pour nous également. Hein. Alors, merci aussi à Edith qui a été gardienne du temps. Alors, je vais vous mettre le micro parce que je dois suivre le père Abel. Encore une chose.
Qui veut prendre le micro? Ben, en fait, je suis désolée, mais c'est pas fini. Je sais pas si vous avez encore quelque chose.
Allez, au revoir.